cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Pour ce nouveau podcast de Cobuzz, nous recevons aujourd'hui, ou c'est plutôt lui qui nous reçoit, qui nous fait l'honneur de nous recevoir, Michel Glotz. Michel Glotz, dont le CV d'impresario effectivement est sûrement l'un des plus impressionnants, non seulement de la place de Paris, mais de la planète classique, on pourrait dire. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois pour évoquer Maria Callas. Et il nous reçoit aujourd'hui pour évoquer une autre figure emblématique dont on fête cette année le 100e anniversaire, Herbert von Karajan. Alors Michel Glotz, je pourrais tout simplement commencer par la première question un peu bateau, mais c'est dans quelles circonstances vous avez rencontré Herbert von Karajan ?
Excusez-moi. J'ai rencontré Herbert von Karajan, à mon avis, sous un faux prétexte, car on m'a envoyé chez EMI, où j'étais directeur adjoint des services artistiques classiques et variétés, pour le rencontrer dans sa maison de Saint-Tropez. Et le prétexte originel, c'était que je devais lui conseiller tel ou tel appareil gramophone, puisque ça s'appelait gramophone à l'époque, pour sa maison de Saint-Tropez. En fait, je pense que c'était un prétexte, parce que j'ai jamais été véritablement un technicien averti, et comme tous les chausseurs ou les cordonniers, je suis mal chaussé, je suis mal équipé, et par conséquent, je n'étais pas vraiment la personne idéale. Il eût beaucoup mieux valu lui envoyer un ingénieur du son, etc. Mais je soupçonne le prétexte d'avoir été l'occasion de faire en sorte qu'il fasse ma connaissance, car il avait entendu des disques que j'avais fait auparavant. Vous avez parlé tout à l'heure très gentiment et très aimablement de mon rôle d'impresario, mais en fait, ma véritable vocation, c'était d'être producteur de disques. Et par conséquent, j'ai fait ce métier 40 ans. 40 ans, j'ai été producteur de disques. Et parmi les gens très célèbres que j'ai ou découvert ou suivis, il y a évidemment dans les jeunes, Crespin, Gore, Prêtre, etc., etc. Mais il y avait aussi surtout Beecham, Maria Callas et futurement Herbert von Karajan. Et je pense que Herbert von Karajan, qui avait entendu plusieurs disques que j'avais faits et qui aimait le son qui était produit à la salle Wagram à l'époque, avait envie de discuter avec moi de questions de son. Et je pense que ça a été le fond du problème et qu'on n'a pas voulu me soumettre à un interrogatoire en due et bonne forme, mais enfin c'était une manière quelque peu amicale et d'une certaine gentillesse qui m'a beaucoup touché parce que il était très intéressé, il était très au courant de tout ce que j'avais fait, il était au courant des disques que j'avais produits, il était au courant des artistes dont je m'occupais, il aimait le son. Il, comme vous le savez, c'était un amoureux du son, et pas seulement du son, mais du phrasé, parce qu'on a tellement dit de bêtises sur le fait que le son était le son pour le son. C'était pas du tout le cas, c'était pas du tout son sentiment. Le son n'était qu'un moyen pour exprimer des sentiments, et un phrasé. Et je pense que c'est ce qui a entraîné cette très très longue conversation que nous avons eue toute l'après-midi. Et à la fin de l'après-midi, il m'a invité à dîner, et à l'après-dîner, il m'a invité à coucher chez lui, et je suis rentré à Paris le lendemain. À partir de ce moment-là, le déclic s'est produit entre Karajan et moi-même, d'une manière un peu coup de foudre, si vous voulez, sur le plan de l'amitié. Et sur le plan de l'identité, des idées que nous avions l'un et l'autre sur la musique, moi très modestement, lui avec l'éclat qu'il avait. Et à partir de ce moment-là, nous ne nous sommes plus jamais quittés, de 57 à sa mort en 89.
Humainement, la première fois que vous l'avez rencontré, au-delà effectivement de ce que vous venez d'évoquer, d'être impressionné peut-être par ce personnage, comment vous l'avez senti humainement? Quelle personnalité il dégageait? Comment c'est dans ces premières rencontres?
L'homme le plus charmant, le plus aimable, le meilleur maître de maison que j'ai jamais rencontré. Il avait le génie de vous mettre, en tout cas quand il avait de la sympathie pour vous, et il avait le génie de vous mettre à l'aise, de sorte qu'au bout d'une demi-minute, vous oubliez qui il était. Vous aviez ça présent dans la tête. Je l'ai eu de 57 à 89. À chaque instant de ma vie, je me suis dit, mon Dieu, quel privilège extraordinaire d'être l'ami, le factotum, le confident, le conseiller de Karajan. Mais en fait, l'homme était tellement charmant, contrairement à ce que les médias en ont fait, car ils en ont fait un jet set society, ce qu'on appelle maintenant la peopleisation, ce qui était à l'opposé de sa nature. C'était un homme d'une courtoisie, d'une gentillesse, d'un sens de l'humour extraordinaire. Il adorait rire. Et l'espèce d'aura de peur et de panique que cet homme a répandu dans le monde de la musique ne peut, à mon avis, s'expliquer que d'abord parce qu'il était qui il était, et la deuxième raison, c'était parce qu'il avait des yeux tellement bleus, mais des yeux de chat persan. Et ses yeux allaient au fond de vous-même, de sorte que vous pouviez éventuellement être impressionné par ses yeux, par son regard, par sa recherche de l'autre. Mais c'est la seule explication que j'ai jamais compris, outre le fait qu'il était extrêmement difficile sur le plan musical, en quête toujours d'amélioration, de perfectionnisme, et que c'est la raison pour laquelle il donnait l'impression d'être sévère avec les autres, parce qu'il était sévère avec les autres pour la raison très simple qu'il était sévère avec lui-même, et qu'il était même très sévère avec lui-même. C'est la raison, ou c'est une des raisons, indépendamment des changements de méthode. Par exemple, il a connu le vinyle, il a connu le CD, il a connu le LP, il a connu la stéréo, il a connu la quadrophonie, qui, entre parenthèses, n'a pas marché. Il a connu le CD, finalement, grâce à notre ami Akio Morita, le président de Sony. Et à partir de ce moment-là, il a toujours eu l'envie, d'une part, de faire mieux que ce qu'il avait fait la dernière fois en disque, céder sa place aux nouveaux sons qui étaient inventés et aux nouveaux moyens qui étaient de plus en plus perfectionnés jusqu'au digital que nous connaissons maintenant. De sorte que c'est la raison pour laquelle vous trouvez des trois fois ou des quatre fois les symphonies de Beethoven, trois fois ou quatre fois les symphonies de Brahms, trois fois ou quatre fois tel ou tel opéra de Mozart, Don Juan, Così fan tutte, les Wagner, c'était un homme, Fidelio, c'était un homme qui cherchait toujours la perfection. Et comme il n'était jamais satisfait, ni des résultats techniques, ni surtout, beaucoup plus que les résultats techniques, il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait, il avait toujours envie, 20 fois sur ton métier remettra ton ouvrage, il avait cette envie et cette nécessité de remettre son travail en perpétuel devenir. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que quand il était arrivé, et c'est arrivé à de très rares reprises, c'est arrivé par exemple avec le Don Giovanni, C'est arrivé avec le Chevalier à la Rose. Quand il avait l'impression qu'il avait été à la limite de ce qu'il pouvait apporter à une œuvre et qu'il était parfaitement satisfait, ou en tout cas à sa manière à lui, c'est-à-dire jamais satisfait, mais quand même se rendant compte que c'était un achèvement extraordinaire, il abandonnait l'œuvre et il n'y touchait plus jamais. De même pour le Chevalier à la Rose. Il avait fait le Chevalier à la Rose avec Madame Schwarzkopf. Il a fait le Chevalier à la Rose vers la fin de sa vie avec la Philharmonique de Vienne et Madame Tomova-Sintoff. Et puis c'est tout, et Pierre Courtemol. Et à partir de ce moment-là, il était parfaitement satisfait et il n'a plus eu besoin de le refaire. Même chose pour Pelléas. Il adorait Pelléas.
Je crois même qu'il a dit que c'était l'une de ses œuvres.
Qui était une œuvre absolument majeur dans son répertoire. Une fois qu'il a fait Pelléas, il est arrivé à la conclusion que mieux il ne pourrait pas faire. Et par conséquent, il ne l'a pas refait. En revanche, il trouvait toujours quelque chose de plus à faire dans Brahms, dans Strauss, dans Beethoven, etc. Et il cherchait toujours, toujours, toujours la perfection. Même chose pour les solistes, même chose pour les chanteurs. Il a engendré des générations entières de chefs d'orchestre à qui il apprenait leur métier, qu'il accueillait volontiers dans ses enregistrements, qu'il accueillait même à ses concerts, leur donnait des conseils chaque fois qu'il le pouvait. Il a généré des séries de chanteurs, de solistes, il cherchait toujours, toujours la quête de la perfection. C'était le Graal. Et quand il arrivait au Graal, il estimait qu'il avait fait son devoir et qu'il ne pouvait pas faire mieux.
Quel a été le premier enregistrement sur lequel vous avez travaillé avec lui ?
Ah, là, c'est beaucoup plus tard, parce que dans un premier temps, il y a eu trois époques. Il y a eu trois époques. La première, c'est celle que je vous ai décrite au tout début de la conversation, c'est-à-dire la connaissance. Là, il venait d'être nommé directeur de la Philharmonique de Vienne. Non, pardon, excusez-moi, directeur de l'Opéra de Vienne, directeur du Festival de Salzbourg et directeur de la Philharmonique de Berlin à vie. Et là, il m'a demandé, étant donné que moi j'avais mon travail chez EMI, il m'a demandé de venir régulièrement à Vienne comme son invité pour juger de la qualité générale des spectacles, aussi bien ceux dirigés par lui-même que ceux dirigés par les autres, de manière à ce que je lui donne une idée qu'il estimait valable, c'était bien d'honneur qu'il me faisait, de lui faire un compte-rendu très exact de ce que je pensais, de ce qui se passait à Vienne, des choses à rectifier, des choses à... Et parmi les choses que j'ai entendues, il y a évidemment son Péléas, qui était admirable et qu'il a récidivé en disque d'une manière inoubliable. Mais la même chose peut-être dite par exemple de Salomé. Mais une fois qu'il avait fait la Salomé avec Behrens à la Philharmonique de Vienne, il a estimé que mieux il ne pouvait pas faire. Et par conséquent, il a fait Salomé en scène, si mes souvenirs sont bons, 6 ou 8 fois, 2 années successives à Salzbourg, et puis il a abandonné Salomé pour toujours. De même qu'il a abandonné pour toujours Le Chevalier, il a abandonné pour toujours Don Giovanni, et jamais il lui serait venu à l'idée de refaire.
Donc le premier enregistrement que vous avez...
Donc, première période, celle que je viens de vous décrire, les visites à l'Opéra de Vienne et les sentiments que ça m'inspirait. Deuxième, quand j'ai quitté EMI en donnant ma démission en 1966, parce que on avait perdu Karajan, et Madame Schiller, qui était la grande fondatrice de Deutsche Grammophon, s'était précipitée de lui faire un contrat magique de 5 ans, de 1963 à 1968. 5 ans qui, Dieu merci, sont arrivés à une fin. Et c'est à partir de 68, donc, que je suis devenu son directeur artistique. Mais entre-temps, j'avais été choisi par lui en 66, quand j'ai quitté EMI, de ma propre volonté, ce qui était rarissime à l'époque, parce qu'on disait, à l'époque, c'était rue Lord Byron, et on disait qu'il y avait des lions qui avalait les cadres de Pathé Marconi et qui en avalait un ou deux par jour. Et j'étais la seule personne, le seul cadre supérieur de EMI qui ait jamais donné sa démission. Jamais. Et à ce moment-là, il m'a demandé, je l'ai rencontré par hasard à New York, dans le bureau de M. Marek, qui était le vice-président de RCA Victor. Et le hasard a voulu que je quitte Monsieur Marek, et que je tombe sur Karajan qui l'attendait. Et Karajan me glisse, j'ai su que vous aviez quitté EMI, surtout ne prenez aucun engagement. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Oui. Venez à 8 heures à l'Essex House à New York et nous allons discuter ensemble de ce que nous pouvons faire de commun. Alors, je suis venu et il m'a fait une proposition à laquelle je n'ai pas pu résister, à savoir d'être son représentant. Il a fait une lettre absolument admirable dans laquelle il me donnait l'intégralité de la conduite de sa carrière, aussi bien sur le plan des disques que sur le plan des films, sur le plan des orchestres, sur le plan de Vienne, non, parce qu'il était déjà parti de Vienne, mais il était directeur du Festival de Salzbourg. Et il indiquait bien que j'avais toutes les responsabilités et que j'étais même chargé de faire toutes les auditions nécessaires, et que seul et lui seul pouvait se réserver un last rush, comme on dit en cinéma. C'était évidemment extraordinairement flatteur. Thank you.
qu'est-ce qu'il attire, il était attiré par vous professionnellement, à quel niveau, qu'est-ce que vous pensiez qu'il a, pour vous donner comme ça cette totale confiance, comme vous dites vous-même, qui vous impressionnait, quoi?
Écoutez, j'ai honte à le dire parce que c'est très très prétentieux, mais il l'a écrit, par conséquent, je me trouve à l'aise pour le dire. Il a tout simplement dit que nous avions exactement les mêmes oreilles et que nous pensions toujours de la même manière. Du reste, dans un livre que j'avais écrit en 81, il avait tenu à faire la préface et il avait, moi je ne lui avais pas demandé, bien entendu, par délicatesse, et il disait dans cette préface que pour une raison mystérieuse, qui probablement tient à la configuration du cerveau, à la manière d'écouter la musique, etc. Nous avions toujours été d'accord. Jamais une fois, nous n'avons été en désaccord sur... Et je peux vous citer quelqu'un d'autre, par exemple, Jeanine Reiss. Jeanine Reiss, c'est une personne que je connais depuis 50 ans. Eh bien, Jeanine Reiss, jamais, jamais, au grand jamais, nous n'avons été... pas d'accord sur tel ou tel sujet, même un détail. Et Karajan disait que nous avons les mêmes oreilles. Je lui répondais toujours, Herbert, nous n'avons pas les mêmes oreilles, parce que si j'avais les oreilles de Herbert von Karajan, je serais Herbert von Karajan. Mais lui n'accepte pas. Et il l'a dit à plusieurs reprises, non seulement dans un livre avec Osborne, mais il l'a dit dans sa biographie officielle d'Osborne, où il a dit... Alors, on lui a demandé comment ça se fait qu'il se soit entendu et qu'il ait jamais voulu changer de producteur de disques depuis 68, qui est votre réponse à la question quand était le premier enregistrement, et c'était les 6 dernières symphonies de Mozart avec la Philharmonique de Berlin. Jamais, jamais nous n'avons été en désaccord. Nous avons été en désaccord quelquefois pour une ou deux distributions, et encore pas distribution, personnalité à l'intérieur d'une distribution. Mais les goûts que j'avais étaient les siens, les goûts qu'il avait étaient les miens. Quelquefois, ça ne m'empêchait pas de trouver que tel ou tel Tchaïkovski était un petit peu trop sirupeux à mon goût. Mais il ne me serait pas venu à l'idée de le lui dire, non pas du tout parce que j'avais peur de lui, car je crois pouvoir dire que sa femme et moi étions les deux seuls à n'avoir pas peur de lui, du tout. Moi, j'étais absolument naturel avec lui. Quand c'était mauvais, je lui disais, c'est mauvais, il faut recommencer. À la stupéfaction de Tilleman, qui, 20 ans après, m'a dit, j'étais jaloux de toi, parce que moi, j'étais son assistant, j'aurais pas ouvert la bouche, j'aurais pas osé dire un mot. Et toi, tu lui disais, c'est mauvais, recommencez. Et j'en étais malade de jalousie. J'ai su ça 20 ans après, quand Tilleman est devenu Tilleman. Et donc, là, nous sommes entrés dans la période d'enregistrement. Alors, dans un premier temps, ça a été de 68 à 73 ou 74. Et puis, à partir de 74, il en a eu assez de certains de mes collègues de Deutsche Grammophon. Et au moment du renouvellement de son contrat chez Deutsche Grammophon, il a exigé que mon nom soit partie intégrante du contrat. Et il a été entendu, comme il était entendu avec EMI, que si je n'étais pas disposé, il avait la permission, il était autorisé à ne pas faire enregistrement ou à le reporter. Et pourquoi cette similitude? C'est très difficile à expliquer. Comment appelez-vous les coups de foudre? Comment expliquez-vous les coups d'amour? Comment expliquez-vous les goûts communs? Comment expliquez-vous... C'est impossible. Nous étions presque toujours du même avis. Et quand je dis presque toujours, c'était 99,99.
Est-ce que votre façon de travailler avec lui, j'allais dire techniquement, a évolué, restait toujours la même? Comment se faisaient ces séances de travail? Est-ce que les échanges se faisaient très rapidement? Vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde très rapidement? Est-ce que c'était plutôt au contraire des débats et des échanges plus prolongés? Comment ça se passait?
Il n'y avait pas d'échanges prolongés. Il n'y avait pas d'échanges prolongés parce qu'on était sur la même longueur d'onde. Alors, la seule chose, c'est que quand quelque chose n'était pas bien, je l'arrêtais. Ça l'exaspérait. Alors, de temps en temps, il a raconté d'ailleurs à Osborne quelque chose de très amusant. Il a raconté qu'un jour où il avait fait un enregistrement, et je l'avais appelé au téléphone, il détestait ça, pendant l'enregistrement. Et puis, redite 5 minutes après pour autre chose. Et une dernière fois, une troisième fois. Et là, il s'est révolté et il a dit, ah, cette fois-ci, il a jeté le téléphone par terre dans un rare accès de colère et il est venu dans la cabine et il m'a dit, cette fois-ci, je vous tiens, je suis sûr que vous l'avez fait pour m'emmerder. Alors, il s'est fait jouer la bande et là, il a raconté à Osborne. J'ai mis mes mains devant mes yeux et j'ai dit, mon Dieu, il avait encore raison. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais remis en question ses jugements.
Est-ce que cette période de Deutsche Grammophon et en plus... Oui.
J'allais y venir. Là, quand j'ai été dans le contrat de Deutsche Grammophon, alors là, j'ai enregistré pour lui, pour l'intégralité de tout ce qu'il faisait, à l'exception... de la maison Decca, où Kölschow régnait en maître, et bien entendu, n'avait pas envie d'avoir, et je le comprends, parce que c'était un grand maître, un grand producteur de disques, et il n'avait pas envie d'avoir celui qui était attaché à Karajan, et qui lui disait quoi faire, et quoi dire, et quoi faire. Et bien entendu, je comprenais parfaitement M. Kölschow. Et il y avait à peu près un opéra tous les 2 ans qu'il faisait pour Decca, parce qu'à cause de son amitié avec M. Rosengarten, qui habitait Zurich et qui était le propriétaire de Decca à l'époque, ou en tout cas un très important shareholder et actionnaire. Et par conséquent, il faisait de temps en temps tel ou tel opéra que ne voulait pas telle ou telle compagnie, Deutsche Grammophon ou EMI ou... Philips, ou etc. Mais à part ça, j'ai enregistré avec lui pour toutes les compagnies du monde, à l'exception de Decca. Et à partir de ce moment-là, rien n'a changé avec Deutsche Grammophon, sauf l'équipe technique. J'avais 2 équipes techniques qui étaient tout à fait différentes. L'une, EMI, qui était personnalisé par un garçon qui avait beaucoup de talent, qui s'appelait Wolfgang Gulisch, qui avait une grande fantaisie, une grande imagination, qui comprenait très bien Karajan, etc. Et puis il y avait de l'autre côté la Deutsche Grammophon, avec une équipe merveilleuse, d'un dévouement, et qui avait une idée totalement différente du son, et cependant, qui collait aussi bien que EMI à une certaine vision de Karajan, qui choisissait les œuvres qu'il donnait pour telle compagnie et telle compagnie, de sorte qu'il y avait malgré tout une unité dans le son Karajan et dans le phrasé Karajan, même si l'équipe technique était changée et les micros différents.
Comment se passait votre relation avec lui, que ce soit aussi bien au niveau du choix des œuvres à enregistrer? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que certaines œuvres, il les a enregistrées de nombreuses reprises, et également concernant certains solistes.
Alors, par exemple, Alexis Weissenberg, qui a été le pianiste avec lequel il a enregistré, le seul au monde, avec lequel il a enregistré les 5 concertis de Beethoven avec la Philharmonique de Berlin, le 2e de Rachmaninoff en film et en disque, le Tchaïkovski en film et en disque, les variations symphoniques de Franck. Ils ont énormément joué ensemble, les Beethoven, les Mozart, les Brahms, les suggestions que j'étais amené à lui faire, en général, correspondaient à ce qu'il avait dans la tête. Mais il m'est arrivé, bien entendu, de lui présenter des gens, par exemple Ferruccio Furlanetto, qui est devenu une célébrité grâce à lui, parce que 86 a été absolument le turning point de la carrière de Ferruccio Furlanetto, qui a été son année bénie. Comme il le dit lui-même, ça a été 13 ans d'une autre planète, d'une planète de rêve et de beauté. Et il avait pour Ferruccio une espèce d'affection, comme il avait pour Alexis Weissenberg. Puisque pensez-vous que Alexis Weissenberg était le seul artiste qui tutoyait Karajan et qui descendait de chez lui. Et un jour, je lui ai demandé, mais comment expliquez-vous que Alexis soit le seul qui soit invité chez vous, qui puisse venir déjeuner, dîner, coucher, alors que que vous tutoyez, et ils se tutoyaient l'un l'autre, alors que vous ne feriez pas ça pour les autres. Tout à fait au début, en 1946, il avait fait ça avec Schwarzkopf, il avait tutoyé Schwarzkopf. Et il m'a répondu cette phrase extraordinaire, il m'a répondu parce que, avec Alexis, je sais d'avance que jamais je ne serais amené à lui dire non. Et par conséquent, je pouvais être complètement moi-même avec lui et je pouvais le considérer comme mon ami, comme mon frère. Mais bien entendu, je lui ai présenté pas mal de gens et nous avons contribué ensemble, par exemple, à l'initiative du Festival de Pâques, avec l'idée que nous avions en commun qu'il fallait se débarrasser de la vieille école wagnérienne, dans le mauvais sens du terme, et qu'il fallait prendre des jeunes qui avaient une nouvelle idée, Thomas Stewart dans Wotan, Fischer Dieskau dans le Wotan de Rheingold, Crespin dans Brunhilde au lieu de l'éternel Birgit Nilsson, ce qui n'enlève rien à la merveille de la voix de Madame Nilsson, mais tout simplement il avait envie d'avoir quelqu'un qui chanterait selon ses idées et pas selon les idées de Madame Nilsson, qui avait fait le tour du monde avec ses idées et qui répétait éternellement la même chose. Et par conséquent, le chef d'orchestre avait un rôle, finalement, relativement modeste, puisqu'il ne pouvait pas influencer des vieilles traditions. Et il a préféré Et là, nous avons fait ça sur la terrasse du Gritti à Venise. Et nous avons eu cette idée et nous avons construit ce festival de Pâques qui a été immédiatement un triomphe extraordinaire, qui avait trois caractéristiques. La première, des distributions nouvelles. La deuxième, le fait de ne pas faire concurrence à Bayreuth pendant l'été. Parce qu'il ne voulait absolument pas faire quelque chose qui puisse être désagréable à la famille Wagner. Tertio, attirer un public qui, pendant les vacances de Pâques, s'emmerde et qui aime la musique. Et c'était le festival de la Philharmonique de Berlin. La Philharmonique de Berlin faisait l'intégralité du festival des 10 jours. Il y avait trois fois la même représentation d'opéra. La première année, c'était la Valkyrie. La deuxième année, ça a été l'Or du Rhin. La troisième année, ça a été Siegfried. La quatrième année, ça a été le Crépuscule des Dieux. Et puis à la fin, ça a été la Totale. Mais après, il a fait Lohengrin, il a fait le Vaisseau Fantôme. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait énormément de choses. Ça a duré très longtemps. Ça dure toujours, du reste. À ceci près que maintenant, c'est M. Rattel qui en est le patron. Et que M. Rattel et M. von Karajan, pour moi, ne font pas bon ménage. Je le dis comme je le pense. Il était c'est l'exacte réplique, c'est l'exacte illustration de ce qu'on appelle en anglais Peter's Principle, c'est-à-dire le principe de Peter, c'est-à-dire qu'il était parfait pour Birmingham. À la minute où il a franchi son degré de compétence, il est monté à la Philharmonique de Berlin et ça a été un désastre.
Comment se passaient les rapports justement entre Karajan et les jeunes solistes quand ils se trouvaient? C'est-à-dire d'un côté, on avait un jeune soliste qui pouvait être impressionné par le maestro. Est-ce que lui était... Comment se passaient les échanges?
Non. D'abord, l'histoire de Alexis Weissenberg, ça a été une histoire extraordinaire. Il cherchait pour faire un film du concerto de Tchaïkovski avec Richter. Il cherchait un metteur en scène, puisqu'il avait perdu Clouzot, hélas. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai vu un film extraordinaire de Petrushka pour piano, fait par un metteur en scène suédois qui était l'ancien bras droit de Bergman et qui a fait une merveille au point de vue, d'ailleurs une telle merveille que Clouzot, qui l'a connu, a voulu faire toute une série d'enregistrements films avec Alexis, notamment les tableaux d'une exposition et la 7e sonate de Prokofiev, bon, dont j'ai d'ailleurs la partition que Ignace Clouzot a eu la gentillesse de me donner, où il y a toutes les indications des caméras, note pour note, mesure par mesure, et malheureusement, il est mort avant de pouvoir réaliser ça. Alors donc, pour revenir à cette histoire de Petrushka, il m'a demandé si je pouvais, en passant à Paris, lui organiser un visionnage de ce Petrushka. Et Alexis Weissenberg m'a demandé très gentiment s'il pouvait se mettre au fin fond du cinéma, de manière à ce que personne ne le voie et que personne ne sache qu'il était là, et pour avoir le sentiment de Karajan, non pas à son égard, mais à l'égard de Åke Falk, qui était le producteur, le réalisateur du film. Et dès les premières mesures de Petrushka, Karajan m'a dit, je ne sais pas encore si je prendrai le producteur, le directeur de l'enregistrement, ou plus exactement le directeur du film, mais par contre, ce que je sais, c'est que je veux ce pianiste à tout prix. Alors je lui ai dit, mais Herbert, et là-dessus, il m'a copieusement engueulé pour ne pas lui en avoir parlé. Or, j'avais des intérêts contradictoires. J'ai fait très attention à séparer mon bureau que j'avais créé d'impresario et de créer une espèce de barrière absolument solide entre mon métier d'impresario et mon métier de conseiller de Karajan, de manière à ce que jamais personne ne puisse dire que je m'étais servi de Karajan et que j'avais fait faire des choses au Festival de Salzbourg ou à la Philharmonique de Berlin qui auraient été contre son gré. Chaque fois que quelque chose a été choisi, ou ça l'a été ou par sa propre initiative ou sur ma recommandation, mais dans ce cas-là, il écoutait. Toujours, toujours. Et après, il me disait, vous dites que je veux. Je n'ai jamais dit Michel Glotz veut. J'ai toujours dit, Monsieur von Karajan m'a demandé d'engager un tel. Alors il m'a dit, ce pianiste-là, ça je ne comprendrai jamais de ma vie que vous ne l'ayez pas fait connaître, parce que c'est un génie. Alors, il m'a dit, est-ce que vous croyez que je pourrais le rencontrer ? Oh, j'ai dit, pas plus facile parce qu'il est au fond de la salle. Alors il m'a dit, bon, ben, on va écouter la fin du film. Et il a pris d'ailleurs Anke Falk, le directeur de la production. Et puis on s'est retrouvés dans la cour de la salle de visionnage. Et il a dit à Alexis Weissenberg, que je lui ai présenté, maître, est-ce que vous me feriez l'honneur de faire avec moi le disque et l'enregistrement de la Philharmonique de Berlin du film avec M. Anke Falk qui a fait votre merveille de Petrushka. Et Alexis était évidemment, comme moi-même, stupéfait. Et Alexis, par honnêteté intellectuelle, lui a dit « Mais vous aviez promis ce film à M. Richter. Vous occupez pas de M. Richter. Occupez-vous de vous et de moi. » Et de Michel. Monsieur Richter, je lui ferai faire un autre disque, un autre film. Mais pour ce Tchaïkovski, c'est vous que je veux et c'est vous que j'aurai, si vous le voulez bien. Et c'est comme ça qu'a commencé leur collaboration.
Comment se passait sa relation avec d'autres solistes plus tard ? Est-ce que, justement, quand quelqu'un comme Weissenberg se retrouve face à Karajan, est-ce qu'il arrive facilement à s'exprimer, à lui faire passer ses visions, ses idées artistiques ? Est-ce que lui les acceptait ? Comment se passaient les échanges ?
Alors, ça c'est la chose très, très drôle. D'abord, ils avaient joué ensemble, en concert. Donc, ça se passait comme ça. Ils se mettaient au pupitre, Weissenberg au piano, et puis ça y était. De temps en temps, il y avait un petit détail où ils se mettaient d'accord pour ralentir ou pour aller un petit peu plus vite ou pour un tempo un peu différent ou une nuance, ou etc. Mais d'une manière générale, c'était comme 99,99% de notre écoute commune. Alors je me souviendrai toujours la veille du jour où on enregistrait le cinquième de Beethoven. À la Philharmonique de Berlin, nous avons été dîner comme tous les soirs dans un restaurant suisse qui était très bon, qui s'appelait le Tessiner Stuber à Berlin. Et Alexis s'est penché vers Herbert et lui a dit, Herbert, mais quand est-ce qu'on va répéter ? Parce que le cinquième, on ne l'a jamais fait ensemble. Et Karajan l'a regardé absolument stupéfait, la bouche ouverte. Il lui a dit, mais Alexis, ça ne va pas, non ? Tu connais le cinquième de Beethoven. Moi, je le connais aussi. Alors, demain matin, à 10h, devant l'orchestre. Il n'y a pas eu le moindre problème. Et ça a été pareil avec les cinq Beethoven. Sauf un, où il a été obligé d'annuler Alexis, et qui a été reporté, parce qu'il avait été piqué par une guêpe au doigt. Alors ça, c'était vraiment pas de chance. Mais je veux dire par là, il n'y avait absolument aucune sorte de... Comment dire ? Autant il aimait beaucoup répéter avec les chanteurs, parce que les expressions, les dialectes, pour ce qui concerne le baron, bon, le chevalier à la rose, le français pour ce qui concerne, puisqu'il parlait français couramment, le français pour ce qui concerne Péléas, l'italien parce qu'il parlait couramment italien, pour les opéras italiens, eh bien, là, il aimait beaucoup répéter. Sauf avec Callas, parce qu'avec Callas, il y avait la même osmose qu'il y avait avec Ferruccio Forlanetto ou avec Alexis Weissenberg ou avec moi-même. moi-même étant évidemment très, très en arrière, je ne suis pas un imbécile et je sais très bien qu'un producteur de disques, quel qu'il soit, n'est que rien du tout par rapport à un artiste. Et un artiste de cette catégorie en plus. Et pour... Alors, là où il a quand même fait un gros effort de travail, c'est vis-à-vis d'Anne-Sophie Moutère. Parce que comme il l'a eu quand elle avait 14 ans, quand même, elle avait encore des choses à apprendre, bien que jouant du violon comme une déesse, ce qui n'est plus le cas, car elle ne joue plus, elle ne travaille plus, et ça s'entend malheureusement. Et il y avait... Alors là, il y avait vraiment un travail commun et auquel j'assistais toujours, de même que j'assistais aux répétitions avec piano, des chanteurs pour les opéras ou pour les oratorios. Et je lui tournais les pages, j'étais derrière lui, je regardais sur sa partition, je marquais quelquefois des choses sur la mienne pour me souvenir. Il y avait... des gens très divers, qui étaient quelquefois ce que Karajan appelait, mais pas d'une manière péjorative, des tapeurs, qui jouaient du piano. Et parmi les tapeurs, figurez-vous qu'il y avait M. Thielemann. Alors j'ai connu Thielemann jouant du piano pour M. von Karajan, pour accompagner les chanteurs. Et puis, le temps passant, il a apprécié Thielemann, il a vu que Thielemann était quelqu'un de tout à fait extraordinaire, et il l'a pris comme assistant pour Parsifal, et c'est là où je vous ai dit qu'il était tellement jaloux, parce que je lui faisais des observations que nul autre n'aurait osé faire, et qui, moi, ne me gênait absolument pas, parce qu'il le faisait avec une parfaite bonne grâce. Et d'ailleurs, il me disait, vous êtes là pour ça, vous êtes la croix que je porte sur la... que je porte sur les épaules et que je porterai toute ma vie. Et je lui disais, et moi donc, vous croyez que vous m'amusez toujours? Vous m'emmerdez souvent. Et moi aussi, je vous emmerde. Mais on est fait pour ça, l'un pour l'autre. Et puis, il faut dire la vérité, c'est que j'étais comme chez moi, chez eux. J'habitais chez eux, souvent. J'étais ami intime avec la famille, sa femme, ses deux enfants, ses deux filles. Alors... c'était comme une espèce de famille. Et puis, il avait une chose que j'adorais, que nous avions en commun aussi, par rapport à la musique, c'était les animaux. Il avait une passion pour les animaux. Il avait, par exemple, dans sa maison, dans son chalet de Hanif, près de Salzbourg, il avait deux pandas, un mouton, un âne, un magnifique berger, avec les tonneaux, là. Un Saint-Bernard, qui s'appelait Treffle, qu'il a pleuré toute sa vie, quand il est mort. Et ce qui était très beau, c'était que c'était une maison très, très simple. C'était une maison à son image. C'était un chalet autrichien. Il y avait deux chalets, un pour sa piscine, et l'autre, avec un grand couloir entre les deux, et l'autre pour l'habitation, avec un très, très joli living room qui était à la fois salle à manger. Et alors, il y avait une porte qui donnait dans le jardin, qui était à ras le sol. Et quand il faisait chaud l'été, on ouvrait et nous avons vu je ne sais combien de fois arriver les lamas, le mouton, l'âne, le chien, et tout ça arrivait en bon ordre, et ça venait dire bonjour à table, et il était tout ému, il était comme un enfant, comme moi-même, et autrement dit, comme vous le voyez, c'était un homme d'une simplicité évangélique. Et j'ai remarqué, et ça c'est très important à dire, que plus les gens sont grands, plus ils sont simples. Et plus ils sont difficiles avec eux-mêmes. Et c'est ce qui a provoqué le fait qu'il a été craint. Il a été craint parce qu'il incarnait une sorte de quête de la perfection, la quête du Graal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il essayait d'imposer aux autres et il ne supportait pas la médiocrité.
Rencontre par Marc Zisman.